Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka, une grande émission de pensée juive et de Torah. Vous pouvez l'écouter le vendredi après-midi, auquel cas je vous dis Shabbat Shalom, si vous nous retrouvez par exemple sur Facebook ou sur les radios qui sont en région. Et sinon, Shavua Tov avec le Rav Eli Lemel, qui introduit notre réflexion commune comme chaque semaine. Rav Tov, Rav Lemel, bonsoir à vous, Eli.
Bonsoir.
Bonsoir, Shavua Tov ou Shabbat Shalom, comme on dit chaque semaine. Alors, on avance dans notre lecture, dans notre survol de la paracha, comme chaque semaine, et donc on arrive à Miketz. Miketz est très connu, c'est le passage, le chapitre qui parle de Pharaon, qui a des rêves, etc. Donc c'est vraiment un passage qu'on a beaucoup lu, mais vous avez remarqué quelque chose qui peut sembler comme une anomalie, et même on pourrait dire comme quelque chose d'assez énorme. Quoi ? Voilà donc. Un tzaddik, on l'appelle même, il est tellement fort, on l'appelle Yosef Hatzaddik, le tzaddik qui sort de prison, Yosef donc. Et quoi ? Pas un coup de fil à son père, pas, on n'envoie pas un messager, on n'a pas, il n'y a pas une caravane qui va partir, peut-être même d'autres auraient fait le voyage. Non, rien, il dit rien à son père qui pourtant, et on le sait, détruit de sa disparition. Mais on dit rien, pourquoi ?
En effet, nous avons ici une vraie question, pourquoi Yosef ne dit rien ? Alors, on voit très bien que son père est totalement bouleversé, il est dans le deuil, et d'un deuil dans lequel, dit le texte, il n'arrive pas à se consoler. Parce qu'au fond, il y aurait consolation si Yosef était véritablement mort, mais il ne l'est pas. Donc il y a une situation très complexe, et Yosef est là. Il y a quand même une attitude qui est très surprenante. Yosef ne dit rien à son père, il ne transmet rien comme message, on est en Égypte. La terre de Canaan, qui s'appellera par la suite la terre d'Israël, est juste à côté. Il ne fait rien, il ne dit rien. Il attend en plus le retour de ses frères. Et puis, quand ses frères viennent le voir, on connaît toute l'attitude qu'il va avoir avec eux. Est-ce qu'il joue à quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comme vous le dites très bien, c'est quand même Yosef HaTzadik, Yosef le Juste. C'est celui qui, rappelons-nous, lorsqu'il se retrouve 2 ans supplémentaires en prison parce qu'il a tout simplement demandé au maître Échanson d'intercéder près du Pharaon, Yosef s'est remis en cause. Il a dit, mais pourquoi au fond, je ne suis toujours pas dehors ? Il a compris qu'à son niveau, je dis bien à son niveau, il ne pouvait d'aucune manière demander une quelconque faveur à l'échanson. Il fallait qu'il laisse les choses se faire à notre niveau, évidemment, que nous, on aurait dû demander, mais pas pour lui. Et il se remet en cause. Et d'ailleurs, quand il va se retrouver devant le Pharaon pour l'interprétation des rêves, le Pharaon lui dit, alors à ce qui paraît, tu sais interpréter ? Et Yosef répond d'une manière fulgurante, Biladai, pas du tout, c'est pas moi. C'est Elohim Yanet, Shenob Paro, c'est le créateur, moi je ne suis qu'un vecteur, alors que c'est le moment idéal pour dire oui, je sais le faire, parce que Yosef a compris, il a pris la leçon. Donc on est quand même face à un personnage qui est, comme vous le dites, c'est Yosef HaTzadik, c'est Midat HaYosod, c'est-à-dire c'est le fondement, c'est celui qui résiste à la femme de Potiphar, enfin, et Yosef n'appelle pas son père, alors qu'on sait cette relation de proximité. Pour mieux comprendre cela, il faut essayer de réfléchir au fond, quels sont les enjeux de cette histoire et qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir que le Ramban, Nachmanide, pose lui aussi cette question, mais peut-être en amont, comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ses frères. Pourquoi les frères, au fond, ont décidé de le vendre ? Parce que les frères, c'est quand même pas n'importe qui, c'est les Shifteka, ce sont les Shvatim, ce sont les tribus, ce sont ceux qui vont créer le peuple d'Israël. Eh bien, ils ont vu, ils ont entendu dans les rêves de Yosef que celui-ci peut-être, à un moment, voudrait prendre le pouvoir et que la royauté, il voulait se l'approprier. Alors que la royauté, c'est pour Yehuda. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'ont pas perçu au fond, c'est que la royauté de Yosef, elle est aussi nécessaire parce que, disent nos maîtres, Yosef doit d'abord créer le principe de l'unité dans le peuple juif. Et c'est seulement une fois que cette unité sera là, qu'à ce moment-là peut aboutir Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda, et c'est d'ailleurs les deux Mashiach dont on parle, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. D'abord, la première partie qui est d'unir le peuple d'Israël, et puis une fois que le peuple d'Israël serait uni, à ce moment-là, le Mashiach de Yehuda ben David peut arriver et arrivera dans l'histoire. Évidemment, ils n'ont pas compris cela, disent nos maîtres, parce que de manière très très subtile, il y a une forme de jalousie, il y a quelque chose qui au fond les a empêchés d'avoir la vision lucide des choses. Et Yosef maintenant comprend qu'il y a tout un travail, tout un processus à mettre en place pour faire le tikkun, pour faire la réparation de ce qui s'est passé. Et donc, le point de départ au fond, eh bien, il commence tout d'abord quand ils viennent le voir pour la première fois, ses fameux frères, et il va emprisonner Shimon. Il dit à Shimon, mais non, mais Shimon, il reste en prison jusqu'à ce que vous m'ayez ramené Benjamin. Rappelons-nous, hein, que Yosef leur dit, vous avez encore un frère, ramenez-le. Et pour l'instant, moi, je garde Shimon. Et quand vous voyez les versets, c'est très, très bouleversant parce que les frères s'interpellent l'un l'autre et se disent, mais au fond, eh bien, c'est parce que nous avons vu la souffrance de notre petit frère, Joseph, Beitranono Elenu. Lorsqu'il nous suppliait, et on ne l'a pas écouté, Alkenba Elenu Atzarazot, c'est pour ça qu'on a cet événement qui nous tombe dessus. Donc, ils sont dans un processus dans lequel, pour eux, ils se remettent en cause. Ils essayent de comprendre ce que l'événement qu'ils sont en train de vivre est en train de leur dire. Et donc, il y a ici un mouvement incroyable. Et Yosef pressent et sait que ses frères vont pouvoir faire ce mouvement parce qu'ils sont dans un univers dans lequel on réfléchit sur la notion de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire rayon incident, rayon réfléchi, que ce que l'on va voir dans notre propre existence, évidemment, c'est là pour nous renvoyer à quelque chose sur lequel on doit réfléchir, sur lequel on doit réparer, sur lequel on doit avancer, sur lequel on doit progresser. Et donc, c'est déjà ici le début de la première dimension dans cette dynamique de reconstruire l'unité lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas été sensibles à la souffrance de leurs frères lorsqu'ils ont décidé d'avoir la lecture qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient remettre en cause la royauté. Et puis après, il y a la suite. Ils reviennent, et puis là, maintenant, ça va être le test avec Binyamin, avec Benjamin, puisque quand vous regardez les commentateurs, lorsqu'ils ramènent Benjamin vers Yosef, quand ils font le voyage, il y a une description très, très puissante de ses frères qui sont autour de lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très fort. Ils sont autour, ils le protègent. Ils sont là, pourtant c'est le fils de Rachel, c'est le frère de Yosef, c'est celui vis-à-vis duquel ils ont un problème. Mais là, il y a un état d'esprit qui a changé, il y a une manière d'être qui a radicalement été transformée. Et c'est vrai qu'on est ici dans les prémices de cette dimension d'unité qu'ils doivent reconstruire. Ce n'est pas juste qu'ils amènent Binyamin, c'est que tout simplement, ils font corps avec lui, ils sont liés avec lui, ils le protègent, ils font tout pour que justement Binyamin ne puisse d'aucune manière être atteint par ce voyage en tant que tel, et puis par la suite dans ce qui va se passer lors de la fameuse rencontre avec Yosef. Et on le voit, et c'est la fin de la paracha, cette rencontre dans laquelle il se passe des choses très curieuses, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a une atmosphère qui est différente, il y a une atmosphère de joie, et puis brusquement ce coup de tonnerre dans lequel voilà, Binyamin est accusé de vol, et avec ces mots qui peuvent émerger, au fond, Rachel, sa mère, n'avait-elle pas pris elle aussi les idoles de son père? Est-ce qu'au fond Binyamin ne s'inscrit pas aussi là-dedans? Et puis au fond, il y a des choses qui sont en train de remonter, et non, c'est-à-dire que en fin de compte, il se dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même si Binyamin a fait quelque chose, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant, on est dans une solidarité absolue, on est dans un moment dans lequel ce n'est pas le sujet, nous sommes frères et nous devons maintenant être dans ce lien et tout faire pour que, eh bien, il y a à la fois Shimon sort de prison et que Binyamin, lui aussi, n'aille pas en prison. Et donc, on a ici un petit peu tout ce tikkun, toute cette réparation et comme on le voyait au début, eh bien, Yosef, oui, ne peut pas appeler son père, parce que s'il appelle son père, tout ce travail ne pourra pas être fait. Et quelque part, tout le projet de Yaakov n'aboutit pas. Rappelons-nous que lorsque Yaakov a quitté ce monde et qu'il va voir tous ses enfants autour de lui, ils vont tous dire ensemble le chemin Israël, c'est-à-dire il va réaliser qu'il y a une forme d'unité absolue entre eux. Et c'est ça qui va faire qu'il va leur donner toutes les bénédictions dans lesquelles il va leur dire « Eh bien, maintenant que vous êtes unis, soyez dans cette pluralité dans l'unité, c'est-à-dire j'attends maintenant que chacun d'entre vous fasse émerger sa dimension particulière, sa singularité à l'intérieur de l'histoire du peuple juif, parce que justement, cette unité est là et votre singularité ne sera pas là comme étant symbole de rupture, mais au contraire comme une forme de complément à l'intérieur de quelque chose qui est une entité qui s'appelle le clan Israël. Et Yosef sait qu'en effet, c'est le rôle qui doit être le sien maintenant. Il sait que c'est ce qu'il doit faire. Et vous imaginez, j'ai envie de dire, la souffrance immense qu'il peut vivre, parce que, eh bien, il sait que son père souffre. Il sait que son père ne sait pas où il est, mais s'il cède à ce que j'appellerais un sentiment, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs ce sentiment, et s'il cède au fond à ses sentiments à ce moment-là, eh bien, il passe à côté de l'histoire. Et il y a aussi une leçon ici extrêmement forte que la Torah est en train de nous dire, c'est que si à un moment nos actions sont guidées par nos sentiments, eh bien, elles peuvent parfois ne pas faire aboutir l'histoire qui doit être. D'ailleurs, on le sait, Yosef, ça va être donc la première malchoute, la première royauté avant d'arriver à celle de Yehuda. Et la malchoute, la royauté, cet élément qui dirige notre existence, puisqu'il y a la royauté, il y a le fait que chacun doit être le roi de sa propre existence. Eh bien, c'est une idée que vous connaissez. Le Meler, le roi, ce sont trois lettres. La première des lettres, c'est même, le même du Moar, de l'intellect, de la réflexion, de la pensée. La seconde lettre, c'est le Lev, le Lamed, de Lev. Lev, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les ressentis. Certains appelleront ça peut-être l'intelligence émotionnelle. Et puis après, vous avez le Kaf de Meler, qui est Kaved, qui est le foie. Le foie, c'est cet organe qui est gorgé de sang, qui symbolise la dimension animale de l'être, non pas dans sa dimension péjorative, mais celle dans laquelle on est dans une action. Et ce qui justement introduit la malchoute, ce qui introduit cette dimension de royauté, c'est que les choses sont alignées, qu'elles sont dans cet ordre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le moar, qu'il y a d'abord la pensée, la réflexion qui est là, et puis après on amène les émotions pour par la suite concrétiser les choses dans le monde de l'action. Et c'est ce que va faire Yosef. À ce moment-là, il sait que si c'est le même, si c'est le lève, pardonnez-moi, si c'est le cœur qui est là, même si celui-ci est fondamental, si c'est celui qui guide son mouvement, eh bien, on va dire comme c'est beau, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais au fond, c'est l'échec. C'est l'échec parce que la reconstruction de cette unité, eh bien, on ne peut pas la prouver, on ne peut pas la mettre en place. Et donc, ce moment que l'on aurait vu extrêmement beau aurait été au fond l'expression d'un échec, mais d'un échec que l'on n'aurait pas vu à ce moment-là. Et au contraire, l'attitude de Yosef qui, pour toutes les bonnes âmes sensibles, semble être d'une forme d'insensibilité, c'est celle-là qui fait aboutir le projet de Yaakov, c'est celle-là qui fait aboutir le projet du peuple juif, et c'est celle-là qui, au fond, va le nourrir profondément et lui donnera sa joie profonde et véritable, parce que c'était ça la finalité de son histoire. Et je crois que c'est aussi ça, cette leçon que ce texte est en train de nous dire, de cette attitude de Yosef qui est, au fond, un phare. On dit bien que Yosef, c'est le Yosod. Yosod, c'est le fondement. Alors, pourquoi c'est Yosod? D'abord parce qu'il a su résister à l'appel de la chair, il a su résister à l'attraction de cette femme. Il a su, à un moment, voir au-delà de l'instant présent les dimensions impliquantes de ses mouvements dans son existence. Mais c'est aussi celui qui montre que la présence de son intellect, de sa réflexion, est primordiale, et c'est celle-là qui doit guider. Évidemment, si on enlève le lève, si on enlève le cœur, si on enlève les émotions, les ressentis et tout ce qui va autour de cela, il y aura un manque. Mais c'est cela qui doit guider son existence, et cela qui doit lui permettre de faire aboutir et à la fois son projet et le projet collectif. Et à une époque dans laquelle on nous demande souvent d'être à l'écoute de nos ressentis, l'écoute de nos sentiments, l'écoute de nos sensations, eh bien, souvent les gens se retrouvent dans une forme de carpe diem qui, s'il est agréable à l'instant, ne peut pas être le révélateur d'une quelconque construction d'existence telle que la Torah le voit. Voilà un petit peu ce qui se joue à ce moment-là primordial de notre histoire. Et en effet, à nous de savoir non seulement le voir, mais nous inspirer et surtout faire en telle sorte que dans la manière dont on l'inscrit dans notre vécu quotidien, nous puissions servir d'exemple à nos enfants et à ceux qui sont autour de nous pour qu'eux-mêmes puissent organiser leur vie de cette manière.
Rav Eli Lemel, merci pour ces belles paroles qui vont beaucoup nous nourrir. Merci, on a compris le sens des priorités, le sens de ce qui est important par rapport à l'autre, ne pas courir aussi peut-être. Merci à vous. Shavuot Tov.
Shavuot Tov et Shabbat Shalom à tout le monde. Thank you.
présent pour Jérusalem où l'on retrouve le Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton, Shalom Aleichem.
Aleichem HaShalom VeHaBeracha. Shalom Aleichem.
Rav Mordechai Biton, demain, c'est une journée spéciale sur notre antenne consacrée à l'association Mazon. Et vous connaissez bien Mazon. Donc, vous avez décidé ce soir d'intervenir sur la question de la Tzedaka, de la solidarité, rendre la justice, rétablir la justice par le don, par la générosité, et d'évoquer un peu cette journée de Mazon, car il faut aider ceux qui aident les autres en plus.
Absolument, absolument. J'ai bien connu Mazon à ses débuts. C'est vraiment une association qui a fait un travail formidable et qui a permis d'aider des centaines de familles, en fait des milliers de gens. Et elle s'inscrit dans la longue chaîne du Chesed et de la Tzedaka de Am Israël. C'est vraiment une association magnifique. Alors, concernant la Tzedaka, il faut dire et répéter ce qu'on dit chaque année au moment de Pessah. Lorsqu'on ouvre, on inaugure le récit de la sortie d'Égypte, on ne commence pas en disant « Venez vous asseoir et écoutez le récit de la sortie d'Égypte ». On dit « Kol yeteh ve'irfin », tout celui qui veut venir, qui rentre, qui s'installe, qui puisse manger avec nous ce soir, qui puisse trouver un toit. Et le Beit HaLevi donc pose la question, il dit « Mais comment ça se fait qu'on démarre le récit de la sortie d'Égypte avec la Tzedaka ?» Il explique qu'en fait, la mitzvah de Tzedaka est une mitzvah très particulière parce que c'est, dit-il, la seule mitzvah de la Torah qu'on peut accomplir parfaitement. Par exemple, Shabbat. On ne peut pas faire les sacrifices de Shabbat, donc on n'a pas le temple. Les hadim, les fêtes, c'est la même chose. Il y a toute une série de mitzvot qu'on fait en état d'impureté rituelle, donc il nous manque des dimensions. Mais il dit, la mitzvah de Tzedaka, c'est une mitzvah qui n'a aucun manque. Tel qu'on l'accomplit, en fait, on l'accomplit parfaitement. De plus, dit-il, c'est une mitzvah chez un akizba, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à un pauvre qui tape à ma porte, je suis désolé, j'ai donné mon maaser ce mois-ci, donc je ne peux rien te donner. On doit au moins lui donner une petite pièce, on lui donner quelque chose. Et si on ne peut pas lui donner une petite pièce parce qu'on n'a pas, on doit au moins lui donner un sourire. Donc, dit le Beit HaLevi, il y a une force particulière dans cette mitzvah. Il ajoute une autre dimension. Il dit, à la fin des temps, dans la période pré-messianique, tout le monde va se mettre à faire de la tzedaka. Alors, on entend parler aujourd'hui des télétons, de toutes ces collectes mondiales pour la recherche contre le cancer, pour des personnes qui sont pauvres, etc. Il dit, cette tzedaka que les nations du monde vont faire va être accusatrice contre Am Israël. Et donc Am Israël doit se renforcer dans la mitzvah de tzedaka, parce que cette mitzvah de tzedaka, c'est ce qui en fait va lui permettre de se libérer et d'amener la Géoula. Et il termine en disant, Tzion ve mishpat tipadé vishavea bitzedaka, Tzion va être racheté par le mishpat, par le jugement, par la droiture dans les comportements interpersonnels, et également, Vishavéa et ceux qui vont revenir vont être rachetés par la Tzedaka. C'est la Tzedaka qui va racheter Am Israël. Alors pourquoi est-ce que la Tzedaka va racheter le peuple et pourquoi est-ce que la Tzedaka rachète un individu? Il y a là quelque chose qui nous apparaît un peu comme artificiel. Avec un peu d'argent, on rachète son âme. C'est un peu ce qu'on a tendance à penser. En fait, c'est autre chose. Nos sages appellent l'argent d'amim, le sang, kesef, c'est-à-dire du mot nirsaf, du désir. L'argent est rattaché dans ce qu'on appelle le nefesh ayesodi, c'est-à-dire dans l'architecture des fonctions premières de l'âme, il est rattaché à ce qu'on appelle maïm, l'eau. Et l'eau, c'est une force de vie, mais c'est une force de vie qui, si elle est mal utilisée, peut amener l'individu à se perdre totalement. On voit par exemple que la génération du déluge a été perdue, a été détruite par l'eau, que le tiers de la génération de Enoch qui se livrait à l'idolâtrie avant le déluge a été détruite par l'eau, que Pharaon a été détruit dans l'eau. On voit que l'eau, c'est à la fois l'instrument du din, mais en même temps, c'est l'instrument de la bracha. Et en fait, tout ce qui touche à l'argent, et d'une manière plus profonde, touche au désir, et en fait, à cette idée de posséder, on a deux manières de le gérer. Soit on va le gérer alors de manière complètement débridée, et donc on va faire n'importe quoi avec son argent, on va faire n'importe quoi avec son corps, n'importe quoi avec son désir, d'une certaine manière, ou alors au contraire, on va gérer, on va organiser, on va répartir. Et en fait, ce que la Torah nous dit, soyez riches. Asher, bijuil, c'est-il Asher. La Torah n'a jamais refusé la pauvreté. La Torah dit, donne la dîme, la dixième de tes revenus pour t'enrichir. Et tu peux même tester à Kadosh Baruch Hu, si tu veux, sur cette mitzvah du maaser. Mais sache une chose, c'est que tu ne peux t'enrichir et tu ne peux réellement être riche que si, à la fois, tu t'enrichis sur le plan financier, mais tu t'enrichis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan psychologique, sur le plan de l'âme, c'est-à-dire sur le plan du partage. Est-ce que ton argent est un argent de shalom? Est-ce que ton argent est un argent de partage? Est-ce que ton argent est un argent qui te permet de penser à ce qui passe autour de toi avec générosité? Car il y a des degrés dans la tzedaka. Il y a beaucoup de gens qui donnent la tzedaka, mais qui le font un peu forcés, qui le font de manière un petit peu désagréable. D'ailleurs, c'est ça qui fait la grandeur des organisations de tzedaka comme Mazon. Parce que la Gemara dans Baba Batra dit « Yadol ameose mimi sheose ». Il est plus grand celui qui fait donner la tzedaka que celui qui donne. Parce que celui qui donne, bon, il donne de l'argent, mais celui qui fait donner, en général, il prend aussi des bisionnottes, en général, il prend aussi un peu de mépris, parce que les gens disent « Bon, vous savez, vous nous fatiguez un peu, etc. » Il va quémander d'une certaine manière. Mais il fait ça pour qui? Il fait ça pour des gens qui en ont besoin. Alors, on parle aujourd'hui avec le corona, on sait très bien qu'il y a des familles qui sont sur la paille, il y a des associations qui sont sur la paille, il y a des entreprises qui sont sur la paille. Enfin, vraiment, on n'a pas besoin d'expliquer la grandeur de la mise à la tzedaka dans le contexte d'aujourd'hui. Toute personne qui a de l'argent dormant aujourd'hui doit libérer cet argent pour aider des gens qui sont vraiment sur la paille. Mais la grande force, ici, elle est que, en vérité, la personne qui donne de l'argent, c'est une personne qui, en fait, elle ne le sait pas, il faut le répéter, c'est une personne qui acquiert un niveau spirituel. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous donnez de l'argent à un pauvre, lui, le pauvre a reçu de l'argent. Mais celui qui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il a reçu du pauvre? Il a reçu du pauvre, en fait, le statut d'un donneur. Voilà la grandeur de la chose. C'est que celui qui donne de l'argent ne donne pas de l'argent. Il ne fait pas que donner de l'argent. Il reçoit du pauvre le statut de donneur, le statut de quelqu'un de généreux. C'est-à-dire qu'en fait, le pauvre a reçu de l'argent, mais celui qui donne a reçu un statut psychologique, psychique, mental, spirituel. Il a grandi. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Ce que nous dit la Torah par rapport à l'argent. La Torah bénit les riches. Le Ramban, Nachmanide, dans Higueret à Ramban, dit « Si quelqu'un est riche, tu dois le respecter. » C'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu lui a donné des moyens. Mais qu'est-ce qui rend le riche réellement respectable? C'est tout simplement cet argent qu'il distribue à des pauvres ou à des gens qui en ont besoin, qui tendent la main, et ou alors à des yeshivot, ou alors à des kolélim, à des gens d'étudier la Torah. Parce que ça encore, c'est une autre affaire. Souvent, les gens disent « Bon, moi, je veux bien donner aux pauvres, je ne vais pas donner aux avrechim ou aux kolélim, sont des parasites, etc. » Pour écouter le discours. Donc non. Quelqu'un qui est réellement dans cette générosité, qui est réellement dans le partage, qui est réellement quelqu'un qui s'abstient de juger et qui a envie d'aider les autres, alors cette personne-là reçoit du pauvre, en fait, une grandeur. C'est ça qu'il faut bien comprendre et qu'il faut faire partager à tous nos écrits, tous nos auditeurs. Quel que soit vos niveaux de revenus, sachez qu'en donnant de la tzedaka, en aidant entre autres donc Mazon demain, eh ben, vous allez acquérir de la grandeur. Les pauvres vont avoir de l'argent, ils auront de quoi manger, mais vous allez avoir de la grandeur. Le besoin matériel des pauvres, c'est la garantie, le passeport de votre grandeur sur le plan psychique, mental et spirituel. C'est ça la grandeur de la mise à la tzedaka, et c'est pour ça qu'elle amène la délivrance, parce qu'en fait, elle délivre, elle montre que l'individu est délivré de la cruauté, de la bêtise, de l'envie de ne faire que posséder. Non, il est habité aussi par le partage. Cette grandeur d'âme, c'est ce qui fait que l'individu sort en quelque sorte de son précaré, il s'intéresse aux autres avec générosité, et donc elle permet à Hachem d'épancher dans le monde un flux de bonté et d'amener donc la Géoula, la délivrance qu'on se souhaite tous pour très bientôt. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait fondamental et vraiment d'ouvrir à la fois évidemment son porte-monnaie de donner, mais en même temps d'ouvrir son cœur, de le faire avec beaucoup, beaucoup d'empathie, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de sourire, joindre à cet argent qu'on donne une énergie qui est une énergie de shalom et de partage. Je crois que c'est aussi très important que chacun conscientise le moment où il donne, à quel point il est grand. Je me souviens une fois, et j'ai terminé avec ça, j'ai rencontré un juif extraordinaire. J'avais un bétamidrash et je ramassais l'argent pour le bétamidrash et j'avais rencontré ce juif et ce juif m'a fait rentrer dans son magasin. Il m'avait dit, vous savez, je reçois souvent des visites dans la journée et je vais vous dire une chose. Il m'a sorti 100 euros et il m'a dit, je suis heureux de prendre 100 euros. Alors je lui ai dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que dans la paracha de Trouma, qui est la paracha de Baba Mitzvah, il est écrit, veillez krouli terouma, que les Bnei Israël vont, pour dire qu'ils vont donner de l'argent à Bétamigdash, c'est écrit qu'ils vont prendre de l'argent. Parce que quand on donne de l'argent à Bétamigdash, ou quand on donne de l'argent à Tzedakam, en fait, on prend. Alors il m'a dit, voilà, je suis heureux de prendre 100 euros, et il les a donnés donc pour le Bétamigdash dont je m'occupais. C'est extraordinaire. Et des juifs comme ça, il y en a des milliers, parce que Am Israël est un peuple extraordinaire de gens qui savent prendre des bonnes occasions.
Eh bien, on va suivre votre exemple, on va être généreux avec Mazon, on va les accueillir, et par exemple, puisqu'il y a un halo don, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui vous appellent. Ces bénévoles, comme le nom l'indique, ne font pas ça pour eux. Et s'il vous plaît aussi, pensez aussi à ça, puisque c'est Rav Mandecha qui nous y amène à penser. Accueillez-les avec le sourire, accueillez-les avec bienveillance, en sachant que donc ils font ça pour quelque chose qui nous dépasse et qui est très important. Rav Mandecha Biton, merci pour ces quelques mots. On souhaite une bonne chance à Amazon. Merci à vous. Shalom Aleichem à Jérusalem.
Aleichem à Shalom.
Maria Chadré est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Maria Chah, Shabbat Shalom, Shavua Tov.
Shavua Tov, Shabbat Shalom, bonsoir à tous.
Ah, on est un petit peu triste, on se dit pas Hanouka Samer, mais allez, on a gardé un peu des flammes dans le cœur, et dans les yeux, on a les yeux qui brillent. Et ouais. On continue
dit que,
notre
on dit que toi, Tevet est privilégié parce qu'il a la chance de démarrer son mois avec les lumières de Hanouka. Donc en fait, les lumières de Hanouka continuent tout le mois de Tevet.
Oh, voilà. Ah ouais, j'ai bien fait de dire ça. Ah bon. Alors, donc, effectivement, on est dans Tevet, et donc on avance, et on est à Miketz, qui est la paracha de cette semaine, dans laquelle, c'est très connu, évidemment, les enfants apprennent ça à l'école, le roi d'Égypte, le pharaon, fait un rêve, et il demande à Yosef de l'interpréter. Mais vous, Maria, vous avez vu dans les textes qu'on peut aussi comprendre que Yosef y a vu une méthode qui lui permettra le rêve, et vous allez nous expliquer bien sûr, une méthode pour se réconcilier avec ses frères. Et là, c'est vraiment nouveau parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Donc,
c'est ça.
Ah, pourquoi ?
Alors, ouais, qu'est-ce qu'il a vu dans ses rêves ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Comment il... Parce que finalement, la question essentielle, j'ai envie de dire, sur toute la paracha de Miketz, qui est bouleversante d'émotions, hein, il ne fait que pleurer et se contenir de pleurer davantage, hein, tout au long, Yosef, dans cette paracha. Mais la question essentielle, c'est finalement comment pouvoir envisager un retour à la normale quand il y a eu une telle scission, une telle division, quand il y a eu une telle douleur. Et c'est vrai qu'à la lecture du texte, on a l'impression que Yosef va simplement réussir lui-même à accompagner ses frères vers la réconciliation, alors qu'il a lui-même été la première victime de la haine qu'il y a eu dans cette fratrie. Et c'est assez extraordinaire, surtout quand on sait que Yosef, le mot Yosef, les lettres qui constituent le mot Yosef sont exactement les mêmes lettres qui constituent le mot Pius. Et Pius en hébreu, ça veut dire faire la paix, réussir à faire la paix. Les faïès, c'est faire la paix, hein, comme l'origine latine du mot paix. Et donc, voilà que Yosef entend au début du Miketz un rêve. Et quand il entend ce rêve, explique le Rav Forman, il a l'impression d'entendre une histoire qu'il connaît très bien. Eh bien, l'histoire de Rachel et de Léa, et des fils de Rachel et des fils de Léa. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une particularité quand on raconte ses rêves, quand Pharaon raconte ses rêves, quand il décrit les grosses vaches bien grasses, pleines de vie. Il les décrit comme étant « yefat tohar », et c'est exactement le terme qui a été utilisé pour décrire Rachel, sa maman. Elle est « yefat tohar ». Et puis, quand le texte décrit les vaches maigres, eh bien, elles sont décrites comme étant « rakot », maigrichonnes, et comme étant un petit peu abîmées, pour ainsi dire. Et c'est la description du texte biblique concernant Léa, la description physique concernant Léa, à propos de laquelle on disait que ses yeux, Einé Léa Rakot, que ses yeux étaient abîmés. Donc, il entend quelque chose qui lui paraît très familier, une belle, une abîmée, et puis celles qui correspondent aux abîmées ont avalé celle qui correspond à la beauté, et c'est un petit peu l'histoire de sa vie. Il s'est senti bouffé, il s'est senti avalé quand il a été vendu. Et donc, au début de l'histoire de Miketz, Yosef a l'impression que Dieu lui parle à lui, à travers les versets du rêve de Pharaon. Et puis il va petit à petit, quand il va retrouver bien sûr la liberté, non seulement la liberté, devenir vice-roi d'Égypte, Pharaon le marie, lui donne un nouveau nom, etc. Et quand il a son premier fils, Ménaché, c'est assez extraordinaire, il l'appelle oubli. Le mot Ménaché veut dire l'oubli. J'ai oublié ce qui s'est passé, c'est-à-dire j'ai oublié dans le sens, je ne veux pas rester coincé dans un passé trop douloureux, je veux aller de l'avant. Je veux oublier ma vie passée. C'est-à-dire que la première perspective de Yosef, c'est aller de l'avant et ne pas rester coincé dans un passé beaucoup trop douloureux. Et puis, comme on le sait, vont arriver ses frères qui viennent chercher à manger en Égypte. Il va voir ses frères sans se révéler, sans se dévoiler à eux. Il va les mettre à l'épreuve, comme on le sait, concernant le petit Benjamin. Et ses souvenirs vont remonter, il va être envahi d'émotions, il va les entendre se remettre en question. Hachemi Manachnou, nous sommes responsables. Et puis, surtout, il va réinterpréter le rêve de Pharaon, et cette fois-ci comme étant une méthodologie de la réconciliation. Pourquoi ? Parce que nous avons une interprétation ésotérique de ces rêves qui est passionnante, dans laquelle, dit le Zohar HaKadosh, donc Rav Pinchas Friedman va présenter un texte du Zohar HaKadosh, qui dit que les sept vaches bien grasses et bien portantes correspondent aux sept midotes, aux sept midotes positifs qu'on connaît, qui correspondent aux sept sphères de la Kabbalah, donc le Chesed, la Gevura, Tiferet, les sept niveaux kabbalistiques de construction personnelle. Et les sept vaches maigres, elles vont correspondre en symétrie à sept mauvaises qualités qui sont en nous et qui créent la division. C'est-à-dire qu'il y a sept qualités qui vont créer l'unité dans le monde et sept qualités qui vont créer la division. Et la division va venir et avaler l'union. C'est-à-dire que quand il y a une dispute, quand il y a une division, elle vient avaler tout. Et elle avale même tous les bons souvenirs que l'on peut avoir de l'union. Et c'est là la particularité de l'interprétation de Yosef. Vous savez, il y a une grande question concernant Yosef qui interprète les rêves de Pharaon, c'est qu'il va très bien les interpréter, magnifique, mais il va aller au-delà. Il va donner un conseil au roi. Il va lui dire, et que le roi nomme une personne responsable de cette abondance pour engranger l'abondance, etc. Et les Rahamim qui lisent le texte disent, mais enfin, comment a-t-il pu oser? On lui a demandé d'interpréter des rêves, on ne lui a pas demandé de devenir conseiller du roi. Et en réalité, explique le rabbi de Lubavitch, ce conseil-là que Joseph donne au roi fait partie de l'interprétation du rêve. Pourquoi ? Parce qu'il y a un détail dans le rêve qui a mis à mal tous les magiciens de Pharaon, et c'est pour ça que ces magiciens n'arrivaient pas à interpréter ce rêve, qui est pourtant assez simple. Des grosses vaches, des bonnes épis de blé, eh bien, on comprend que ça fait partie d'une idée d'abondance. Mais ils n'ont pas réussi à cause d'un détail qui change tout. C'est que quand les sept belles vaches sont côte à côte avec les sept vaches maigres, avant de se faire avaler dans le rêve de Pharaon, eh bien, elles sont côte à côte et elles vivent côte à côte. Elles restent côte à côte avant de se faire avaler. Et ce point-là est très difficile à interpréter, parce que qu'est-ce que ça signifie que l'abondance est côte à côte à la famine ? Eh bien, l'interprétation de ce point-là en particulier est la suivante, c'est que quand on vit de l'abondance, eh bien, il faut en même temps envisager ce qui va venir, c'est-à-dire la famine, pour ne pas gâcher cette abondance et l'engranger. Et c'est de cette façon que l'abondance et la famine sont côte à côte, pour ainsi dire, parce qu'on prend l'abondance et on l'engrange, et on la garde précieusement en soi, parce que la famine peut arriver. Et là, se dit Yosef, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, parce que ce que signifie ce rêve, c'est que certes j'ai vécu des années de famine affective avec mon père, avec mes frères, parce que j'ai été vendue, mais avant ça il y a eu de l'abondance. Et cette abondance, eh bien, il faut la garder précieusement à l'intérieur de soi pour pouvoir l'utiliser comme ressource à l'époque de la famine. Et là, je crois que Yosef nous fait un magnifique cours, une magnifique méthodologie pour créer une union quand il y a eu dispute, quand il y a eu division, quand il y a eu un fossé familial ou amical. Eh bien, n'oublions pas les bons moments. N'oublions pas le positif qui se trouve à l'intérieur des personnes qui nous entourent. La problématique humaine, c'est que quand il y a division, on ne voit plus que ça et on oublie tout le reste. Et on oublie les bons moments et on oublie les moments d'abondance, les moments de richesse. Et ces moments de richesse doivent continuer à nous accompagner. Et au contraire, il faut créditer un compte intérieur qui a besoin d'être en permanence crédité par des expressions d'amour, par des expressions d'affection, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et qu'on aura besoin d'aller utiliser cette affection si besoin, si famine affective, si difficulté, eh bien, toutes ces ressources-là, toute cette abondance sera extrêmement utile. Et donc, Yosef, c'est ça qu'il fait. Quand on voit que ses émotions vont prendre le dessus, il se retient, il va dans la chambre d'à côté, il va pleurer là-bas, et puis il va se laver le visage. Enfin, c'est incroyable que la Torah donne des détails pareils. Il se lave le visage après avoir pleuré pour que ses larmes ne soient pas visibles par ses frères. C'est absolument fabuleux. Je trouve ce passage extraordinaire. C'est-à-dire que Yosef se laisse vraiment envahir par les émotions. Et la difficulté que nous avons quand il y a une dispute, c'est qu'on va se barricader derrière une certaine froideur en disant « c'est terrible ce qui s'est passé, surtout ne nous laissons pas envahir par des souvenirs positifs qui vont advenir ». Eh bien, Youssef se laisse envahir par ses souvenirs. L'abondance est côte à côte avec la famine, et c'est d'ailleurs ça ce qui va lui permettre d'évacuer la famine, qu'elle soit économique dans le pays ou qu'elle soit affective à l'intérieur de sa propre existence. Il se concentre sur l'abondance. Et je crois que c'est ça, la merveilleuse leçon de Youssef qu'on doit garder avec nous précieusement. Et je crois que cette paracha de Miketz, il faut l'étudier pas que au moment de Miketz. Toute l'année, on en a besoin. De garder en tête qu'on a besoin de cette abondance, qu'on a besoin de l'engranger, qu'on a besoin de la garder précieusement et de l'utiliser en cas de besoin, parce qu'il y a toujours besoin de cette abondance quand on passe des moments difficiles. Alors sachons garder en nous les lumières de Hanouka qui nous accompagnent et les lumières de l'abondance qui peuvent nous aider à créer encore plus d'unité au sein de nos familles et au sein de nos amitiés.
Oh là là, c'est tellement important. Tellement important. S'il pouvait faire un rêve aussi, quelqu'un pouvait faire un rêve pour nous débarrasser du Covid, j'adorerais. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire comme vous venez de dire, être proche de sa famille, être proche de... Pourquoi pas... On a déjà eu plusieurs fois cette idée, vous et moi, Mariacha, à la fin d'une de vos drachotes. Pourquoi pas ne pas profiter immédiatement de ce que vous venez de dire pour appeler quelqu'un avec qui on s'est disputé, même si on s'est déjà réconcilié, mais on sent que c'est un peu fragile. Petit coup de fil. Allez.
Je partage tout à fait votre avis. Il n'y a pas de meilleur paracha pour se réconcilier que celle de Miketz et de Vaïgash. Il y a des ondes, des énergies positives de réconciliation dans le monde.
Oh, c'est vraiment beau. Ah bah alors en plus, alors magnifique. Voilà, on laisse pas les choses comme ça. On appelle. Si c'est trop tard, on appelle. Non, on appelle tout de suite. On dit pas, c'est trop tard. Si c'est trop tard, on envoie un texto. Maria Chadré, merci à vous. Shalom Aleichem. À la semaine prochaine. Merci.
À bientôt, Bernard. Au revoir.
Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan qui est en ligne avec nous à présent. Shalom Aleichem, Rav David, bonsoir à vous.
Shalom Aleichem, bonsoir.
Shalom, Shabbat Shalom, Shavua Tov. Et on va parler aujourd'hui de la barbe et des cheveux. Alors, pourquoi ? D'abord parce que vous y avez trouvé un remèze dans la paracha. Ensuite, parce que quand on était petit, on prenait pour la piscine un gel qui s'appelait corps et cheveux. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais ensuite, et là on devient sérieux, on voit bien que des gens très religieux n'ont pas la barbe, des gens pas religieux du tout l'ont. Alors, est-ce que la barbe, c'est finalement, je ne sais pas, une obligation ? Une obligation apparemment pas, mais est-ce que c'est une mitzvah ?
Il est évident que la barbe ne fait pas le rabbin, ça c'est une certitude. Maintenant, on va essayer de réfléchir, est-ce qu'il est interdit de se raser la barbe ? Est-ce que c'est mieux de l'avoir ? Qu'en est-il réellement ? Alors, il faut savoir que théoriquement, effectivement, il est idéal alachiquement, de ne pas se raser la barbe, de laisser même un petit peu de barbe, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Il y a une interdiction dans la Torah qui nous dit « Velo tashrit et peat zekanecha ». C'est une interdiction de détruire sa barbe. De détruire, ça veut dire de raser à la lame la barbe. Et en réalité, quand on regarde, il y a 5 endroits dans le visage dans lesquels il est interdit de passer la lame. Ces 5 endroits ne sont pas clairement identifiés, ce qui veut dire que quelqu'un qui se rase la totalité de sa barbe avec une lame, transgresse ces 5 interdictions. Si vous voulez que je parle en langage un peu populaire, c'est comme quelqu'un qui mangerait 5 fois du chazir, du cochon. C'est exactement la même chose. Donc il y a 5 lotaasé, 5 interdictions qu'on transgresse. Devant la gravité de cette interdiction, effectivement, certains poskim, donc je vais surtout selon l'avis de Rav Ovadia Youssef dans ce qu'on va débattre aujourd'hui, dans ce qu'on va expliquer aujourd'hui, nous disent qu'il est idéal de ne pas raser complètement la barbe, même avec une machine électrique, de laisser un petit peu. Quelqu'un qui, pour des besoins professionnels ou d'autres nécessités, a besoin de se raser la barbe, pourra utiliser une machine, un rasoir électrique, à condition que celui-ci soit validé. Comment les règles de validation des rasoirs électriques ? C'est un peu long et je ne suis pas assez calé en la matière pour l'expliquer ça maintenant, mais il faut appeler un rave et sur chaque modèle de rasoir se renseigner est-ce que ce rasoir répond aux exigences de la halakha pour pouvoir l'utiliser. Mais idéalement, celui qui peut laisser même une petite barbe et éviter de rentrer dans ce problème, c'est l'idéal. Après, la grande barbe, ça c'est une khumra, c'est quelque chose d'alpi kabbalah, mais ce n'est pas donné à tous. Et encore une fois, la barbe ne fait pas le rabbin. bien entendu, par contre, il faut essayer de ne pas, enfin, il faut s'efforcer de ne pas transgresser cette interdiction. C'est aussi grave, on a dit, que de ne manger pas kasher ou de transgresser Shabbat. C'est l'interdiction de se raser la barbe avec une lame.
Bon, ok. Alors, quelqu'un s'est rasé la barbe de façon interdite. Qu'est-ce qui se passe ?
Le problème, c'est que, vous savez, dans la halakha, il y a deux, on va dire, il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui ne sait pas que c'est interdit. Eh bien, nous avons la mitzvah. Nous avons le commandement de lui expliquer, de gentiment lui parler, de lui faire comprendre que c'est interdit. Et à celui qui sait que c'est interdit et qui transgresse. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau halakhique, quelqu'un qui transgresse une interdiction de la Torah, en sachant qu'il la transgresse, eh bien, ça va faire un statut qui va être compliqué au niveau de la halakha. Cette personne, bien entendu, par exemple, à un mariage, elle ne pourra pas être témoin. On ne la prendra pas comme témoin à un mariage parce qu'elle transgresse une interdiction de la Torah. Mais bien entendu que, idéalement, on vit dans une génération où c'est une avéra qui n'est pas répandue, on ne le sait pas que c'est interdit. Donc le devoir, c'est de former les gens et d'expliquer aux gens que derrière un geste aussi anodin que de se raser à la lame, il y a là 5 interdictions qu'on transgresse tous les jours et qu'on peut éviter simplement en utilisant un rasoir qui va être autorisé plutôt que d'utiliser une lame ou un rasoir non autorisé.
Alors, donc vous allez dire des interdictions, maintenant on va faire les cheveux. Les cheveux, là pareil, je vois des gens avec des grandes péotes qui ne sont pas forcément les plus forts en Torah ou en Kabbalah, et je vois d'autres qui sont tout à fait beaucoup plus discrets que ça. Alors, quelle est la réalité en fait de la loi ?
Les cheveux aussi, les péotes ne font pas le rabbin, bien entendu. La réalité de la loi pour les cheveux, c'est un petit peu différent. Il faut savoir que pour les cheveux, donc, il y a une interdiction de la Torah, là également, une interdiction qui nous dit « l'otakifu et peadre shechem », c'est une interdiction de raser en fait les angles de la tête, ce qu'on appelle les angles, ce sont ce qui part depuis la tempe alors certains disent jusqu'en bas de l'oreille, d'autres disent jusqu'à l'os qui part au milieu de l'oreille, et il y a une interdiction de raser cet endroit-là, de le raser à la lame. Celui qui le rase à la lame transgresse là aussi, de chaque côté, une interdiction de la Torah. Alors là-dessus, par contre, on demande, et là, c'est tous les poskim s'accordent à dire que là, non seulement il ne faut pas raser cet endroit à la lame, mais il faut aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, il y a une certaine mesure de longueur de cheveux qu'il faut laisser ici. Je sais que la mode aujourd'hui est à se raser la tête complètement, mais là, non, il faut faire attention. Les deux, au niveau des tempes et en descendant jusqu'à un petit peu plus bas, il faut laisser, selon les avis, entre 3,5 et 5 mm. Donc entre 3,5 mm et un demi-centimètre, de laisser de longueur de cheveux à cet endroit-là. Sinon, on rentre dans une possibilité d'interdiction de velo takilo takifu et peatro shechem, cette interdiction qui consiste à aligner les angles, les côtés de la tête, et c'est une interdiction de la Torah. Là aussi, peut-être qu'en parlant comme ça, les gens comprendront mieux. C'est aussi grave que de manger pas kasher ou de transgresser Shabbat. C'est une interdiction de la Torah.
Ok, alors je vais essayer une question qui a peut-être rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Un minhag, une façon de faire qui est très répandue, qui est très belle d'ailleurs, couper les cheveux des enfants à l'âge de 3 ans. Est-ce que ça a un rapport à ce que vous venez de dire ?
Le chalaké. Le chalaké, c'est un minhag qu'on retrouve surtout chez les Ashkenazim, qui consiste à couper les cheveux aux enfants à l'âge de 3 ans. Et souvent, on attend la date de l'Agba Omer, on les emmène au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai pour aller leur couper les cheveux à Méron. Alors oui, c'est un petit peu en rapport. Hein. Ce minhag-là, en fait, provient du fait que l'âge de 3 ans, c'est considéré comme l'âge où l'enfant commence à avoir des échanges avec l'extérieur, l'âge où l'enfant commence à communiquer, et c'est l'âge où on peut commencer à lui inculquer, à lui insuffler le chinour, l'éducation. Avant 3 ans, il est trop petit, et à partir du moment où on peut lui insuffler le chinour, eh bien, on commence par cette mitzvah qui est accessible de couper les cheveux en laissant les péotes justement des côtés. Alors pas forcément des longues péotes, puisque nous, les Sfaradim, nous n'avons pas cette habitude de laisser des longues péotes. C'est ramené nulle part, et Rav Ovadia Yosef tranche qu'il n'y a aucun inyan, il n'y a aucun sujet à le faire pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, eux, ont des habitudes de laisser des péotes qui vont être un peu plus longues, mais l'idée est la même, de laisser les péotes à un enfant. C'est la première mitzvah, on va dire, à partir de l'âge où il est apte à comprendre et à échanger. Là-dessus, est-ce que ce minhag, cette habitude, concerne aussi les Sfaradim ou que les Ashkenazim ? Il faut savoir que, historiquement, chez les Sfaradim, on n'avait pas cette habitude. Cette habitude est ramenée la première fois dans les Shuta Radbaz, donc le Radbaz, c'est dans les années 1500, et Rabbi Chaim Vital témoigne, de façon un petit peu sceptique aussi, que paraît-il que le Harizal avait emmené lui aussi son fils à Méron pour lui couper les cheveux. De là, du fait qu'on a quand même des témoignages assez sérieux dans le sujet, Rav Ovadia Yosef, dans le Lecha Vedaat, tranche que c'est un minhag qu'on peut, même si on n'a pas l'habitude de le faire, c'est joli, comme vous dites, donc on peut adopter ce minhag en gardant à l'esprit qu'il s'agit là d'un minhag. Il arrive que certains parents ont des problèmes je vous parle d'un problème trivial, par exemple, parfois certains enfants ont des problèmes de poux ou des choses comme ça et les parents ont peur de couper les cheveux. Non, c'est un minhag, surtout pour les Sfaradim, donc on peut y déroger, on va dire comme ça. Ce n'est pas un minhag pour les Sfaradim, c'est une bonne habitude qu'on prend de temps en temps, donc on peut y déroger s'il y a un besoin, mais ceux qui le font ont sur quoi s'appuyer et c'est effectivement lié à la mitzvah des péotes. Vous avez tapé dans le mille, Bernard.
Bah, tant mieux. Rav David Abendanan avec vous chaque semaine, 5 minutes, une halakha, c'est sur Radio Shalom, je vous remercie. Shalom Alechem, Shabbat Shalom.
C'est moi qui vous remercie Bernard, Shabbat Shalom pour ceux pour qui on est vendredi soir et Shavua Tov pour les autres.
Voilà, cette émission est à présent terminée, donc c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes, comme vient de dire à l'instant, ou Shabbat Shalom ou Shavua Tov, les deux me font plaisir. Excellente soirée. Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboyim, Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymay. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboyim, Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymay.